Le club RFI. Éric Amiens.
On part. Pourquoi on part? Parce qu'on veut refaire le monde à notre image. Redonner aux femmes et aux hommes humains visage. Ne plus connaître le courroux des dictatures qui nous prennent à la gorge. On part parce que nous revendiquons soleil, soleil, soleil. On part parce qu'au lointain, le rivage, une autre rive, la paix possible, un mirage. Peut-être un autre âge, un adage. On part pour attraper au passage du milieu un peu de ciel, un peu de lumière.
Le Club RFI de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir, bienvenue au Club, le magazine des initiatives des Clubs RFI. Cette semaine, notre émission est consacrée à l'atelier littéraire interactif du Club L'écume des mots.
L'écume des mots, l'atelier littéraire interactif du Club RFI, Éric Amiens, Myriam Guillot.
Bonsoir Myriam Guillot, une deuxième édition de l'écume des mots très attendue. Alors le contenu.
Oui Éric, pour cette deuxième édition de l'écume des mots, l'atelier littéraire des clubs RFI où un écrivain francophone dialogue avec des élèves autour de son œuvre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain Marc-Alexandre Ohobambé, auteur du roman Les Lumières d'Oujda, paru aux éditions Kalman Lévy. Marc-Alexandre Ohobambé, bonsoir.
Bonsoir.
Nous serons aussi accompagnés par les élèves de l'école à UEFA, des Éviers et Club RFI Jeunesse Positive du Bénin.
Bienvenue à tous, bienvenue. Merci Marc-Alexandre Ohobambé d'avoir accepté notre invitation et aussi les élèves de l'école Dianette Oud et Fado Évier et le club RFI Jeunesse Positive. Bonsoir chers amis, comment ça va?
Bonsoir Eric Amier et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, bonsoir pour cette émission avec vous, chers amis. Irénée Akaï-Messan, tu es le coordonnateur de cette initiative. Comment vont les choses?
Alors, les choses vont bien. Je crois qu'on a eu suffisamment de temps, toi et moi, et Myriam également, pour préparer l'émission avec les enfants. Et la chance, c'est qu'on sommes en vacances chez nous depuis quelques jours et beaucoup plus de travail pour nous. Et on espère qu'avec monsieur Marc-Alexandre, on passera un très bon moment interactif.
Bien évidemment. Alors justement, je me retourne vers notre invité, Marc-Alexandre Ohobambé, dit Capitaine Alexandre. Alors vous êtes écrivain, poète, slameur, lauréat du prix Paul Verlaine de l'Académie française en 2015, c'est tout récent, et nommé Chevalier de l'Ordre National du Mérite, ça c'est en 2017, ça fait beaucoup. Des auteurs qui vous inspirent, tels que René Char, et il semblerait que le nom de Capitaine Alexandre vient de René Char.
Entre autres, c'est entre un autres. Hommage à René Char. Entre autres.
Et vous appréciez aussi les auteurs tels que Aimé Césaire, le Martiniquais Aimé Césaire, on pourrait dire le père de la négritude, et aussi l'haïtien Franck Étienne.
Oui, Franck Étienne que je considère comme le sphinx, comme Dieu.
Oui, désaffi.
Absolument.
Alors, vous êtes un auteur qui interroge, qui prône l'action et aussi le vivre ensemble.
Alors oui, enfin j'interroge, mais parce que la poésie m'est arrivée comme ça, par cette interrogation, cette question du monde et cette question du devenir des femmes et des hommes dans le monde. Mes maîtres et mes professeurs d'espérance s'appellent Aimé Césaire, et Césaire disait cette phrase magnifique et venant, je me dirais à moi-même et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Voilà, moi j'ai entendu Césaire, j'ai pas de distance avec la poésie, donc je fais.
Ouais, c'est très bien. Alors, les élèves du club RFI Jeunesse Positive et les élèves de l'école Dania Ou et Afé de Évier vont nous présenter le roman Lumière d'Oujda.
Les Lumières d'Oujda est un roman documentaire à la croisée des genres littéraires et journalistiques. Marc-Alexandre Ohobambé, l'auteur s'est immergé comme un journaliste d'investigation dans la vie de jeunes migrants en quête d'une vie meilleure. Les Lumières d'Oujda, c'est l'histoire d'un narrateur né à Douala au Cameroun. Comme beaucoup d'adolescents qui rêvent d'un Eldorado, il réussit à se rendre clandestinement en Italie en passant par l'île de Lampedusa. Mais son arrivée à Rome signe la fin de son rêve, celui d'obtenir ses papiers et de devenir écrivain. Il est arrêté puis menotté au poignet, reconduit au Cameroun. Là, il s'engage au sein d'une association qui tente de retenir les jeunes volontaires au départ pour l'Europe vers ces cimetières de sable et d'eau. Le pays rêvé n'est pas cet Eldorado que vous croyez. C'est là qu'il reprend goût à la vie. Le récit donne la parole à cette jeunesse meurtrie. Les destins s'enchevêtrent entre violence, drame et espérance, toujours portés par cette lancinante question. Pourquoi part-on ?
Pourquoi partir ? Une réaction par rapport à ce résumé fait par Sania Ndaou-Soudé ?
Un grand merci pour la voix qui tremble, pour l'émotion perçue dans la voix et puis pour le rappel aussi de ce qu'est ce texte et des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de l'écrire, pour lesquelles j'ai décidé d'aller au bout de cette entreprise d'écriture et de partage de cette humanité-là, souvent niée malheureusement, de la manière dont je l'apercevais dans les médias. J'avais l'impression que ces jeunes gens dont je parle dans le livre n'avaient ni visage, ni sourire, ni regard. Et j'ai écrit avec la modeste ambition de leur rendre cette humanité-là qui passe par les regards, les sourires et les rêves qu'ils portent dans le monde et pour questionner aussi le droit de circuler dans le monde des jeunes, de tous les jeunes du monde. Et donc entendre une jeune voix comme celle que je viens d'entendre résumer ce texte avec ces mots-là, précisément, ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup pour le travail qui a été fait autour des Lumières d'Oujda. Ouais.
Alors justement, donc, on va amorcer le dialogue avec ces jeunes qui sont là, qui ont préparé ce dialogue avec vous depuis plusieurs semaines avec leurs enseignants, donc Aka Irénée Misson. Et pour lancer le dialogue, un élève va vous poser la première question.
Bonsoir, je m'appelle Trinité.
Bonsoir Trinité.
Comment est née cette nécessité d'écrire ce roman ?
Comment est née cette décision d'écrire ce roman ?
Alors Trinité, tu as absolument raison, tu as employé le mot nécessité. Il y a eu une nécessité, il y a eu urgence. Et l'urgence est née d'une rencontre, comme souvent, comme toutes les urgences, comme toutes les nécessités. C'est une rencontre qui a déclenché l'écriture de ce roman, une rencontre avec un jeune réfugié. Alors je dis jamais le mot migrant parce que je trouve qu'il déshumanise les personnes dont on parle. Donc je dis réfugié, exilé ou jeune, simplement, avec un jeune rencontré à Arles, dans le sud de la France, un jeune qui venait de Guinée. Ibrahima, qui avait 16 ans et qui rêvait de devenir écrivain, et qui est venu me voir pour discuter avec moi lors d'un festival auquel je participais. Et il est venu me demander ce qu'était le métier d'écrire pour moi. Et je lui ai répondu, écrire est un métier de lumière. Et à partir de là, on a continué à discuter. Et le lendemain, donc Ibrahima, moi je ne savais pas, je pensais au départ que Ibrahima était un jeune, comme il peut y en avoir dans tous les festivals du monde, stagiaire, qui accompagne, qui vient rencontrer des artistes, des écrivains. Et j'ai découvert à la fin de notre conversation qu'il était un réfugié, qui était venu témoigner, puisque le festival artistique auquel je participais était adossé au thème « Migration et exil ». Et il devait témoigner de son parcours le lendemain avec l'association qui accueille les réfugiés dans le sud de la France. Et quand il est arrivé sur scène le lendemain pour son témoignage, il nous a offert ces mots. Je ne vais pas vous dire comment je suis arrivé ici. Je vais plutôt vous dire ce que je vais faire de ma vie. Je vais devenir écrivain. Parce que hier, Alexandre m'a dit qu'écrire était un métier de lumière. Et dans mon pays, comme il y a beaucoup de coupures de courant, ça peut être pas mal d'avoir un métier de lumière. Et ce gamin, voilà, il était déjà écrivain parce que ce qu'il avait fait de notre conversation la veille, l'humour, la résilience... Je lui ai promis à la fin que j'essaierais, que j'écrirais un texte pour leur rendre hommage. Voilà.
Une deuxième question.
Bonsoir, on m'appelle Cynthia. Pourquoi
Bonsoir.
Avoir choisi le thème de l'exil ?
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas choisi le thème de l'exil. Le thème de l'exil fait partie de moi. Tu sais, je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, à Douala. Je suis parti du Cameroun à 17 ans parce que je rêvais de devenir écrivain, donc pour poursuivre un rêve. Parce qu'on a le droit de partir aussi, juste parce qu'on a des rêves. Je ne suis pas parti d'un pays en guerre, je ne suis pas parti d'un pays où je ne mangeais pas à ma faim. Je suis parti parce que j'avais un rêve. Je rêvais de devenir écrivain et je pensais que ce rêve devait passer par Paris. Parce que Césaire, parce que Senghor, parce que Damas, parce que la rue des écoles, parce que présence africaine. Et il y avait quelque chose comme ça chez moi qui me guidait, qui était cette voix intérieure. Et que j'ai eu la chance de pouvoir suivre grâce à mes parents qui m'ont accompagné dans ce voyage. Et donc l'exil fait partie de moi. J'écris, je suis... D'ailleurs, quand tu écris, tu es déjà en exil. écrire, c'est s'exiler, c'est se confiner, c'est se retirer du monde. Donc l'exil fait partie de moi depuis l'âge de 15 ans. Donc je crois que c'est un sujet qui est toujours là, quel que soit le thème dont je parle. Je peux parler d'amour, je parle d'exil, je peux parler de la violence du monde, je vais parler d'exil aussi. Donc c'est un sujet qui est là. Alors l'exil dont je parle dans Les Lumières d'Oujda est très spécifique. C'est un exil parmi d'autres exils. Et d'ailleurs, la première phrase, c'est Mahmoud Darwish qui nous la donne. L'homme libre est celui qui choisit son exil. Alors peut-être que je parle d'exil aussi parce que je parle de liberté et que je parle de ma liberté, de notre liberté.
Notre liberté. Alors, Marc-Alexandre O et Myriam, on va écouter un poème de, justement, de Moncho Trinité.
Tu as tant de rêves, encore, tu as semence d'exil. Dans la démence du monde, tu as fui la misère, la mort. Tu es Ulysse moderne, dans le tonnerre qui gronde. Tu sais mieux que personne que l'humanité est en guerre contre elle-même, que les hommes sont en froid meurtrier avec eux-mêmes, depuis des siècles et des siècles et des siècles de douleurs communes. Alors, tu vas, libre, d'île en île, tu marches de ville en ville, tu marches dans le tumulte de la vie. Tu meurs un instant, puis ressuscites et marches encore. Tu marches toujours, tu marches envers et contre tout. Et pourtant, tu marches aussi pour nous remettre au monde, nous défaire de la haine de l'autre, nous faire capitaine de nos âmes, maître de nos destins et nous refaire naître à nous-mêmes plus humains.
Alors, Myriam, ce poème de Yagine et Foudé, donc lu par Trinité, élève de quatrième, c'est un poème touchant, frappant.
C'est un poème très puissant que l'on trouve effectivement dans ce roman et qui m'a interpellée, donc je voulais le faire partager. Et dans votre roman, Marc-Alexandre Obambé, une partie centrale de l'action se déroule à Oujda, au Maroc, où votre personnage principal accomplit une mission humanitaire à la maison du père Antoine. Ce lieu est un centre d'accueil, d'écoute et de solidarité pour les exilés. C'est là où se sont réfugiés deux jeunes rappeurs, Yagine et Fodé, dont nous venons d'écouter le poème. Tous les deux sont emplis d'espoir en l'avenir, porte-parole d'une génération, leur musique fédère et nous interpelle sur la condition humaine. Nous allons écouter un extrait de la lettre poignante qu'ils ont écrite au père Antoine.
Cher père, nous ne pouvions nous résoudre à rentrer au pays, pas après tant de sacrifices. Alors, nous avons fait le choix difficile de reprendre la route. Merci de nous avoir accueillis si bien, de nous avoir redonné foi en l'homme. Nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard. Nous avions rendez-vous. Nous voulons y croire. Nous y croyons. Ensemble, la musique nous lie. Notre musique nous lie par nouveau à la route. La route vers le monde. Nous vivrons de notre musique. C'est écrit quelque part en nous inscrits. Nous avons des choses à dire au monde, des choses à dire du monde. Tant, notre rap n'est pas petit, il est grand, grand comme le monde. Nous sommes citoyens, nous aussi, n'est-ce pas?
Alors ce poème de Yagine et Fodé m'a beaucoup touchée parce qu'il représente toute cette génération de jeunes qui sont partis, qui sont révoltés et qui ont envie d'un avenir meilleur. Et c'est toute cette résonance humanitaire qui fait que ça devient une parole universelle et je vous en remercie.
Merci.
Poursuivons donc Marc-Alexandre Obambé avec les questions des élèves qui sont là et qui attendent pour savoir tout. Alors, une nouvelle question.
Moi, je m'appelle Othniel. À travers les personnages de Yagine et Fodé, rendez-vous hommage à cette jeunesse qui refuse de compromis.
Oui, c'est une question qui me touche beaucoup et oui, absolument, tu as dit le mot, c'est un hommage aux résistances jeunes, c'est un hommage aux résiliences jeunes aussi et c'est un hommage à ce que j'appelle la résistance des jeunes du continent, la résistance, c'est-à-dire la résistance par le rêve que personne ne peut empêcher en fait, aucune dictature, aucun pouvoir ne peut nous empêcher de rêver. Et ces jeunes gens, Yagine et Fodé, c'est ça qu'ils illustrent en fait, avec leur rap qui n'est pas petit, hein, leur rap qui est grand. Et ils décident que dans ce monde, ils ont le droit d'avoir un avenir dans ce rêve-là. Et c'est un hommage que je leur rends, mais que je rends à toute la jeunesse de notre continent.
Rêver, c'est important de rêver hein, pour l'avenir. Une autre question?
Oui, c'est Trinité. Vous attachez une grande importance à l'écoute de nouvelles générations. Que pensez-vous qu'elles ont à nous dire?
Vous attachez une écoute aux nouvelles générations. Que pensez-vous que cette nouvelle génération a à dire?
Tout. Votre génération a tout à nous dire, a tout à partager. Je fais partie de... Maintenant, je suis un vieux monsieur, donc je peux parler comme ça. Je fais partie d'une ancienne génération qui considère que la jeunesse a tant de choses à dire et à apprendre aussi. Parce qu'un enfant peut élever un adulte. On a toujours l'impression que c'est le contraire, mais c'est pas vrai. Un enfant peut élever un adulte, élever vers ce qu'on a de meilleur en nous. Et donc, votre génération a cette mission-là de tout dire de ses rêves, de ses espoirs, de ses révoltes. Et nous, on a le devoir de vous écouter.
Trinité, tu penses, comme le dit Marc-Alexandre Obambé, qu'un jeune peut apprendre des choses à un adulte?
Oui. Oui, un jeune peut apprendre des choses à un adulte.
Donc, tu es d'accord avec cette idée d'Alexandre Obambé?
Oui.
merci d'être d'accord avec moi.
Alors, une autre question.
C'est Cynthia. Pouvez-vous nous parler d'Imane, cette jeune avocate marocaine?
Avec plaisir. Imane est une femme poème. C'est l'amoureuse de mon narrateur, la femme dont il va tomber amoureux quand il ira à Oujda pour travailler, pour animer des ateliers d'écriture auprès des jeunes réfugiés. Et Imane est une femme engagée et engageante aussi, d'ailleurs. Mais elle est engagée dans ce combat pour la justice dans son pays et ils vont se rencontrer et puis ils vont faire un beau bout de chemin ensemble. Voilà, c'est une flamme.
Vous pensez que l'engagement, c'est important pour la jeunesse? Il faut s'engager, il faut faire des choses?
Mais l'engagement, vivre, c'est s'engager.
C'est s'engager.
Écrire, c'est s'engager. Toutes les décisions importantes qu'on prend dans la vie, on les prend en s'engageant.
Une autre question?
C'est Chania Tansolé. Votre livre nous interroge sur la perception des immigrés en Europe et l'accueil qui leur a été réservé.
Ah, parce que je m'interroge sur le monde de manière générale. Je m'interroge sur je pense comme Édouard Glissant, agis dans ton lieu, pense avec le monde. Et questionne-toi sur le monde, c'est aussi se questionner sur l'endroit où l'on vit. Et ce que je vois de la manière dont les réfugiés sont accueillis, à la fois par des familles hospitalières, par des gens qui s'engagent justement, des justes, et à la fois par des personnes qui font tout le contraire. C'était important d'en parler, puisque je parlais d'eux dans ce livre-là. Mmh. Et j'avais, puisque je parlais d'eux, le devoir aussi de parler de la manière dont les personnes étaient reçues ici. Et parfois avec une générosité incroyable dans plein d'endroits où des associations font en sorte que nos différences arrivent à tenir ensemble. Et parfois aussi avec un mépris et une violence absolue, administrative d'abord, et puis aussi de gens qui considèrent qu'on n'a pas le droit d'aller voir ailleurs si on y est.
Je voulais justement dire que l'Europe est responsable quand il s'agit de l'accueil, puisqu'on voit la situation des migrants en Libye, qui est vraiment catastrophique, et dont les jeunes souffrent énormément. Et lorsque vous parlez de Faudé, ils évoquent aussi dans leurs poèmes et dans leurs textes cette souffrance de cette traversée.
Absolument.
Voilà, c'est la descente aux enfers.
Alors, Marc-Alexandre Obambé, nous allons passer maintenant à une lecture d'un texte, puisque le livre, il y a beaucoup de textes, Myriam, on en a parlé, des textes qui nous interpellent, et on va passer à ce texte.
Avec plaisir, je suis très heureux de partager quelques mots avec vous ici, pour les jeunes là-bas. Pourquoi on part? Parce que Boko Haram, parce que Daesh, parce que dans nos pays, parfois nous sommes des morts en sursis et partir dès l'aube devient dès lors la seule porte de sortie de la nuit, la seule porte de survie, la seule porte de secours de la vie qu'on assassine chez nous pour un oui ou pour un non. On part parce qu'on est prêt à endurer le pire pour trouver le meilleur. On part parce qu'on est déjà mort noyé mille fois dans la Méditerranée, de nos vies brisées, prises au lasso. Nos vies lassées de la folie des rois qui viennent à tenir en laisse nos destinées et ne nous laissent aucun droit d'existence, ne nous laissent aucun autre choix que partir parce qu'on a le sentiment de Waka en clan d'eau depuis le préau, depuis le landau même, et nos fardeaux sont moins lourds quand ils prennent l'eau. Cours, court petit, court vers la pluie, court vers elle, encore elle, toujours elle, la vie miracle qui sauve aussi la vie, cri danse de cymbales du soleil qui tape, tape sur la peau, tape, tape sur la peau, la vie en ciel bleu et cru, la vie encore elle, parfois, parfois belle, la vie, encore et toujours elle. Aux senteurs de jasmin et de lavande, la vie, aux odeurs d'étoiles absinthes, la vie qui nous enfante, nous enchante, nous déchante, nous réenchante, nous redéchante, puis nous offre ailleurs de nous réenfanter encore, toujours, encore et toujours dans la lumière infinie du jour que nous portons toutes et tous en nous. On part parce qu'on veut croire qu'ailleurs nous veut du bien. On part parce qu'on entend Rodney nous dire que nous ne devons pas nous excuser de marcher à l'intérieur de nos silences. Car nous sommes l'horizon vers lequel nous marchons.
Un texte avec beaucoup de rythmique qui donne beaucoup à réfléchir.
Oui, c'est un texte fleuve, c'est le fil rouge du roman, pourquoi on part, cette question. Et c'est un texte qui n'a pas de ponctuation, qui se dit presque en étouffant même. Quand je le dis sur scène, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, je suis slameur, donc je mets en voix mes textes, donc je mets en voix ce roman aussi. Et c'est un texte que je dis sans respirer, parce que ces jeunes gens-là ne respirent pas pendant leur traversée. Ils vivent dans une tension permanente, et c'est un texte dans lequel il n'y a aucune ponctuation, parce que je voulais justement rendre cette tension en fait.
Marc-Alexandre Obombé, écrire n'est pas toujours facile. Les élèves vont te poser des questions sur ton écriture et le style.
C'est Othniel. Dans ce roman, il y a de la narration et de la poésie. Marc-Alexandre, pourquoi avoir choisi cette forme d'écriture?
J'ai l'impression d'être interrogé là par mon prof au collège, Marc-Alexandre. Pourquoi dans votre rédaction vous avez... Donc je pense que tu seras professeur. Hein. Je pense que ton prof a du souci à se faire même. Tu prendras sa place bientôt. Merci pour ta question. Pourquoi avoir choisi? Ben, c'est assez évident. Je crois beaucoup aux évidences quand je travaille sur un texte. Et comme vous avez lu le texte, vous savez que dans le roman, il y a deux jeunes rappeurs. Donc, il y avait forcément de la poésie dedans, puisque rap, R-A-P, ces trois lettres signifient rhythm and poetry, rythme et poésie. Signifie aussi réapprendre à parler, dans mon imaginaire à moi, partagé avec d'autres. Mais il y avait vraiment l'idée que puisque je parlais de personnages qui ont un rapport à l'écriture et à la poésie, au rap, à la musique, je devais faire entendre cette musique aussi dans le texte. Je pouvais pas juste dire, voilà, j'ai deux personnages qui rappent sans qu'on lise les textes des personnages. Et ces textes-là, c'est des textes de chansons, c'est des textes de rap. Et on les voit, on les lit tels quels dans le roman. Et donc j'écris et j'assume d'écrire des textes un peu hybrides qui font dire à certains que j'écris des romans poèmes, et ça me va parce que le mot poème dans la vie me parle beaucoup.
On va, Marc-Alexandre Obombé, écouter un autre texte qui concerne, bien sûr, le rap et offert à Yagine Efodé.
Bonjour mon frère, comment va ta douleur? Ainsi commençait le texte de rap offert par Yagine Efodé lors de notre première rencontre. Mon idée est d'instaurer un silence en eux, autour d'eux, pendant chaque séance de poésie-thérapie, réapprendre à faire silence et écouter ce qu'on entend de soi, choisir de le partager ou non, poser un regard sur son être, se parler, s'écrire, s'ouvrir, se demander comment on va et où on en est de son chemin intérieur, son parcours, sa traversée, de toutes les frontières qui nous rapprochent ou nous éloignent de nous, du monde. Je crois au pouvoir de la parole, je crois à la résilience par les mots, les nôtres et ceux d'autres aussi, tuteurs, professeurs d'espérance qui peuvent nous aider, nous soigner, nous accompagner sur la route de nous-mêmes.
Alors, Marc-Alexandre Obombé, vous êtes né au Cameroun. Alors, on aimerait bien que vous nous parliez de votre enfance au Cameroun.
Ah, mon enfance au Cameroun, c'est une enfance heureuse au plus haut point. C'est une enfance privilégiée, une enfance dans les livres, parce que ma mère était enseignante de lettres, de français et de philosophie. Et surtout, elle avait une bibliothèque à cajou incroyable, avec plein de livres. Donc, je suis né dans les livres, j'ai grandi dans les livres et c'est un vrai privilège d'avoir eu tout ça à la maison. Donc voilà, Douala, Bonapriso, le quartier où j'ai grandi. Et puis le manguier de ma grand-mère, Sita. Donc, c'est les mangues maraudées. On n'avait pas le droit de marauder, mais on le faisait quand même, parce qu'on faisait quelques bêtises quand même. On ne pouvait pas être sage comme des
comme tous les enfants, voilà, bien sûr. Absolument. Et certainement comme vous aussi, les élèves.
Absolument, je suis convaincu de ça. Et puis, c'est les matchs de foot de rue, aussi à Bonapriso, avec les amis d'enfance. Des souvenirs impérissables et qui lient pour la vie notre petite bande, celle qui a grandi et s'est dispersée dans le monde depuis. Mais on a Douala, on a Bonapriso, on a ces matchs de foot, on a le manguier de ma grand-mère et de mon grand-père. Et puis on a la joie absolue.
Nous proposons aux auditeurs d'écouter un texte, Sita, qui est lu par Actiombe Cynthia, élève de 4e.
Sita, ma grand-mère, chante sous la véranda. Elle est contente que je sois rentrée en vie. Elle dit que l'amour propre n'est rien comparé à la mort. Elle a raison. Elle a toujours raison. Aussi loin que je m'en souvienne, ses mots ont toujours fait mouche et éclairé mon chemin, jour et nuit.
Un souvenir.
Oui, hein? Une grande émotion aussi, ouais, d'entendre. Mais ça me touche beaucoup parce que ce roman aussi en hommage à ma grand-mère. J'ai prêté à mon narrateur ma grand-mère en lui faisant promettre de me la rendre à la fin du livre. Il ne me l'a toujours pas rendue puisqu'on continue à parler de Sita comme sa grand-mère, mais c'est ma grand-mère en fait dont je parle dans le livre, à laquelle je rends hommage. Et donc ça me touche beaucoup qu'elle soit un de ces personnages de ce livre et que les premières lectures, les premières rencontres littéraires aient fait ressortir que chez les personnes qui avaient lu ce livre, elle était... une femme incroyable, parce que c'est vraiment ça. Elle était une femme incroyable.
Dans nos familles, la grand-mère, comme on dirait aux Antilles, c'est le poteau mitant.
Absolument.
Hein, la partie centrale de la famille. Hein. Rien ne passe sans l'aval de la grand-mère.
Absolument. Et Sita, c'était ça. C'était vraiment ça aussi.
Ouais. Et quelle valeur qu'elle t'a transmis, ta grand-mère?
Ah là là, des valeurs d'humanisme, des valeurs de générosité, des valeurs de bienveillance, et puis des mots aussi, parce qu'elle était poétesse à son insu, elle n'écrivait pas de poésie, mais elle avait la poésie en elle, et des mots comme cette phrase, « Pourquoi fermer les bras? On reçoit tellement plus quand on les ouvre.
Oui. »
Et il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont pleuré. Moi, quand j'étais petit, je comprenais pas cette phrase. Et quand mes enfants sont nés, j'ai compris ce que ça voulait dire, cette phrase.
C'est toujours en grandissant qu'on comprend ce que nous racontent les parents, les aînés.
C'est ça, des années-lumière plus tard.
Alors, une question.
C'est Chania. Quel conseil nous donnerez-vous?
Alors, quel conseil? Conseil d'écriture? Conseil de vie? Chez moi, de toute façon, l'écriture et la vie se confondent. Alors, s'il y a bien un conseil, je dirais de toujours écouter la prose de son âme. Ça sert dans la vie, si on veut écrire, écouter la prose de son âme. Et ça sert dans la vie tout court aussi, dans les choix qu'on a à faire. Écoutez toujours la prose de son âme. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir le faire.
Alors, vous prenez bien ces conseils?
Oui.
Nous arrivons, c'est par ces bons mots et ces bons conseils, nous arrivons à la fin de cette émission. Marc-Alexandre Obambé, merci pour cet échange autour de votre livre, le roman Lumière d'Oudja, que vous avez écrit et paru aux éditions Kahneman-Lévy en août 2020. Des bons mots, de bons conseils aux jeunes qui, nous le souhaitons, donneront aux élèves l'envie d'écrire, de créer des vocations. Merci aussi aux élèves de l'école Dianat à Ou et Fadé Dévié et le club RFI Jeunesse Positive à Kaye Irénée Messan du club RFI. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on dit encore à ces élèves?
Alors moi, je leur dis Nassom Jita, ça veut dire merci en Douala, Nassom Jita, et surtout veillez sur vos rêves, prenez soin de vous.
Et surtout, continuez à lire parce que la lecture, c'est une richesse, Marc.
Oui, la lecture est une richesse, elle a valeur inestimable.
Merci à tous. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Club RFI. Et pour cela, nous vous quittons avec une chanson qui correspond bien à notre thématique d'aujourd'hui. Une chanson de l'artiste Christophe Maé, Lampedusa. À très vite.
Merci, monsieur. On est aussi contents que belle émission avec vous.
Merci.
Je pense à toi, mon amour. Moi qui suis loin de nos terres. J'y vais pour toi, mon amour. Pour maman et pour mes frères. Là-bas, c'est une terre d'accueil. que je serai bientôt sur le seuil. Oh là-bas c'est l'Europe. Mais sur cette mer d'écueil, sous cette lune en deuil, on écope, on écope. Dis à mes aïeux et dis à ma maman que ce sera merveilleux à Lampedusa. Oh, dis à mes aïeux, dis à Moussa, je coulerai des jours heureux à Lampedusa. Je pense à toi, mon amour, toi qui es-tu en train de faire. Ne t'en fais pas, mon amour, bientôt vous serez si fiers. Et même si le temps se gâte, même si le vent nous frappe, j'arriverai bientôt. Et même si les vagues tapent, la prochaine étape, c'est l'Eldorado. Dis à mes sera la dernière.